cours de Raveman, lundi 7 septembre 1998, à Montevideo.
Je crois qu'on a versé une bête, c'est ça ? Einav que Yoni Manafik et Maïm, Rochatsot de Khalav, Yoshvot Almiret. Vous l'avez ? Einav, mot à mot ses yeux, que Yonim à la fille Kemaïm. Ce sont Yonim, les colombes, Al à fille Kemaïm. Qui plane sur l'eau. Rochatsot Bechalav. Motamo, trempé dans le lait, Yoshvot assis, Almilet sur la soie. Alors on va essayer de traduire. Rachid Yafik Emaim arrivim le mare vabachorim yotzim sham lashut. Les bords de l'eau. Vechen me kales ashorer, ameshorer et inedodi. Et voilà comment le roi Salomon me kales loue les yeux d'Odi de mon ami, de mon bien-aimé. Que chez où m'habite à la fique et non, c'est jamais long. Que chez où m'habite à la fique et maïm domote le noy et inéoni. C'est-à-dire que c'est une couleur qui ressemble à la fique et maïm. Allô, le Bordeaux. Le Midrash dit. Einav que Yoni Malafik Emaim. Il est évident que ici il s'agit du peuple juif qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on avait commencé Dodi Tsar Veadom, Dagul Mervava. Einav, c'est sûr qu'on ne parle pas des yeux du bon Dieu. Einam, ce qui s'appelle Eine à Eda dans la Torah. Eine, Einaim. Ceux qui sont censés voir ou qui voient, c'est les Talmidei Chachamim, le Sanhedrin. Ça s'appelle Eine Aeda. La Torah, lorsqu'elle veut parler du Sanhedrin, elle dit Eine Aeda, les yeux de l'assemblée. Ils sont que Yoni Malafik Emaim, Rochat Sot Bechalav, Yoshvot Talmilet. Rochatsot Bechalav, Elu Alachot Shem Rochatsim Otam, Atche Osim Otam, Nekim Kechalav. Yoshvot Almilet, Meleata Shel Torah. Alors ici on va voir, il y a trois qualités. Premièrement, Einaim, les yeux, Shem Einaim Laeda. Ça veut dire que c'est les gens qui ont une façon spéciale de regarder, de voir. Le fait d'assimiler la Torah donne une façon spéciale de voir les choses. Ça, c'est la première chose. Einam kuyonim alafik emaim. Deuxième chose. Rochatsot bechalav elu alachot. Shirochatsimotam beshnaim atchosimotam. Nekim kechalav. Ça veut dire que la halakha, c'est quelque chose de complexe et qu'il est difficile de mettre selon des séries qui soient facile à l'entendement. Un du travail, des travaux du Talmid Chacham, c'est de pouvoir s'y retrouver dans les halakhot. Troisième chose, Yoshua Talmilet, me les attache à la Torah. C'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le mot millet, normalement, ça désigne la justice.
Millet.
Yoshuot al millet. Celui qui est assis sur quelque chose qui tient, qui est là pour juger les autres. Ça, qu'il y en a qui disent millet shel Torah, millet shel Yerushalayim. Parce que Yerushalayim est considéré comme la source de la loi. Comme nous disons, Ki Mitzion, Tetzé Torah, ou Devar Hashem, Mirushalayim. Pourquoi? Parce que le Sanhedrin était réuni à Jérusalem. C'est-à-dire que si on veut, il y a trois fonctions. La Torah doit me donner une façon particulière d'appréhender les choses. Elle doit rendre les choses claires. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Et elle doit avoir le pouvoir de donner ou de rendre la justice. On va essayer déjà de comprendre le premier volet. Einav que Yoni Malafik et Maim. C'est-à-dire l'oiseau au bord de l'eau. Vient le Midrash, il me dit, ça c'est Naïm Laïda Alafik et Maim. Emma Fikim Almehem Shel Torah. C'est-à-dire c'est la façon, au fait qu'en hébreu, ça veut dire aussi l'horizon. Ça veut dire qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois les choses? Il y a une façon particulière de la Torah d'aborder les choses dans le sens où on se sert d'une logique pour appréhender des choses qui ne sont pas toujours logiques. Peut-être même qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on use de logique et on use de compréhension pour une matière qu'on n'est pas censé comprendre. Vous savez que la Torah est faite de Chukim et de Mishpatim. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend moins. On a déjà dit souvent que le Mishpat, c'est quelque chose dont nous, avec notre entendement, nous pouvons juger. Au fond, c'est quand même un Chok. Et le Chok, il n'est pas tout à fait un Chok, il y a aussi un peu de Mishpat. C'est mélangé. On va donner un exemple. Parce que maintenant on est avant Rosh Hashanah. On va donner un exemple typique en ce qui concerne la Tchouva. C'est vrai que le Rambam, Maïmonide, il a écrit des halakhot, ça s'appelle Yuchot Tchouva. Comment est-ce qu'on doit faire Tchouva? Quelle est la forme? Dans quel cas? Sur quoi? Comment? Et il y a beaucoup de halakhot sur la Tchouva. Je vais donner un exemple. Le Rambam commence et il dit, lorsqu'un homme voudra revenir de ses mauvaises actions, il doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu, faire ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, on traduira en français, confession. Il doit là-bas dire Khatati, Aviti, Pachati. Il y a même une formule. on me dit ce qu'on doit dire. On me laisse pas dire n'importe quoi. On me dit que la tchouva, c'est quatre choses. Arrêter de faire la vera, de faire la faute, premièrement. Regretter ce qu'on a fait. Prendre sur soi de ne plus la faire. Parce qu'arrêter, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recommencer. Et le vidouille, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, s'adresser à lui et lui dire ces choses-là. Et curieusement, c'est sous la forme d'une mitzvah. Nous, on comprendrait très bien ça. Mais voilà que la Gemara dans le traité de Yuma me dit que celui qui fait teshuva, c'est comme s'il avait offert des sacrifices, et pas des sacrifices obligatoires, mais des sacrifices de nedava, des sacrifices de bonne volonté. Vous savez qu'au temple, il y avait celui qui avait un sacrifice, ce qui était obligé, c'est le khatat, la hola, ou alors celui qui amenait un sacrifice de nedava, il avait envie d'offrir, on appelle ça des shlamim. Même le non-juif peut amener un sacrifice de nedava. Et demande le Maharal, mais comment la Gemara peut dire que la tchouva c'est un sacrifice de nedava? La tchouva c'est une obligation. C'est parce que tu as fauté hier que tu vas continuer demain. C'est une mitzvah de la Torah. On voit que le peuple juif, on lui reproche de ne pas avoir fait tchouva. C'est pas qu'on reproche la faute, on reproche surtout de ne pas avoir fait tchouva, parce que la faute ça peut arriver à tout le monde. Comment la Gemara peut-elle dire, celui qui fait tchouva, qu'il ou écrive parim, paré ne dava. Dit le Maharal ceci. Celui qui est sorti du contexte de la loi. Parce que qui dit faute, dit action qui n'est pas régie par la loi. Une fois qu'il est sorti du contexte de la loi, c'est plus la loi qui peut le ramener. Il ne peut revenir que de sa bonne volonté. Mais la loi ne veut pas lui indiquer un retour, puisqu'il est sorti du domaine de la loi, et c'est ça sa faute. Vous comprenez? Ça veut dire de dire que il y a une mitzvah de la tchouva, mais à qui tu t'adresses? Tu t'adresses à celui qui se situe en dehors des mitzvot, puisqu'il se permet de transgresser les mitzvot. Donc dit le Maharal, tout celui qui fait tchouva, c'est une preuve de bonne volonté et c'est un acte de liberté absolue. Bonne volonté. Ça n'est pas un acte de soumission, puisqu'on parle de l'insoumis. Quelqu'un qui est insoumis et qui revient par frapper à la porte de l'organe dans lequel il doit se soumettre, il n'y a pas plus grand nedava, c'est-à-dire bonne volonté. Ça vient de lui, ça ne peut pas venir de la loi. C'est ce qu'il dit le Maharal. Alors on se serait attendu qu'on ne me dise pas encore comment faire, tu vois. Et il faut que tu parles, il faut que tu dises, il faut que tu machins, il faut que tu ceci. Puisque je suis quelqu'un qui est en dehors de la loi, non, ne me mettez pas tout de suite le grappin sur mes intentions, tu veux faire, tu vois, voilà. Et pourtant, le Rambam dit que chez Yashu Mecheto, lorsque le juif viendra et fera tchouva, Chayav le Itvadot l'ifne à quel Baruch Hu, il est obligé de faire son vidouille. Oh, laissez celui-là. Il ne tombe plus sur le coup de la loi. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose est encore plus surprenante. Peut-être vous connaissez cette Gemara. Dans le traité de Yuma, la Gemara dit ceci. Aose tshuva mira. Celui qui fait tshuva par peur de l'avenir. On dirait par égoïsme. Il a peur pour lui. Il a envie d'être réglo. Il a envie d'être quelqu'un de bien. Tout ça, ça s'appelle tshuva mi'ira. C'est la tshuva ira, c'est la peur. Je dénote les fautes qu'il a commises. Be zadon, zadon, ça veut dire en toute connaissance de cause, mesid. Nasotlo kishgagot. Elle se transforme en inadvertance. Ça, c'est comme une faute. On va considérer cette faute comme si tu ne savais pas. Alors que celui qui fait tshuva me'ahava, c'est-à-dire il fait tshuva par amour pour celui qui a donné la loi, se donote les mésides, c'est-à-dire ce qu'il a fait en toute connaissance de cause, nasit lo zuchuyot, ça va devenir des mérites, c'est comme s'il avait fait des mitzvot à la place. Alors attention. Quelqu'un fait une faute, il regrette. J'ai pas vraiment compris comme ça et comment pour l'instant ça devient un mérite. Je peux dire qu'on enlève la faute, qu'elle devient un mérite, c'est bizarre. Mais si on me le dit, je veux bien le croire. On pourrait très bien dire, finalement cet homme s'est rapproché. Ce rapprochement, il vient aussi de la Avera. Bien que c'est un peu pervers comme raisonnement. C'est-à-dire, si je ne fais pas de faute, je ne vais jamais me rapprocher. Donc l'idéal de faire tshuva, il faut d'abord faire une petite faute, et puis c'est un peu pervers comme raisonnement. Mais on pourrait encore imaginer quelque chose dans ce goût-là. Mais le compromis, celui qui a fait Bemézid, alors on dit, tu fais tshuva mi'ira, ça devient shogeg. Shogeg, celui qui ne fait pas l'inadvertance, l'ignorant. Celui qui ne fait pas attention. Par exemple, il écrit naître le Shabbat, ou il ne sait pas que c'est Shabbat, ou il ne sait pas que c'est interdit d'écrire. Le lourd. Bon, il y a un moment, il se prend en main, il apprend bien les l'ilchot Shabbat, il a décidé de faire le Shabbat comme il faut. Il a son calendrier, et il connaît 30 travaux, et puis il essaye. Alors voilà que le Diba fait exprès de transgresser le Shabbat. Et maintenant le Diba, c'est comme si tu n'avais pas fait exprès. C'est un compromis. Ou là, tu vois, ça marche ou ça ne marche pas. Mais que ça devienne comme si je n'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Surtout que la question est encore plus grande. Mais celui qui n'a pas fait exprès, il a aussi besoin de tshuva, lui. Donc il va faire tshuva là-dessus et ça va marcher. Comprenez? Ça s'appelle le jeu des puces. On va donner à l'autre. Tu m'as dit de Zadon, il devient shogeg. Eh bien, je vais faire tshuva sur le shogeg. Et là, tu vas me dire quoi? Ça marche plus? Très difficile à comprendre. Alors, on va essayer de comprendre. Quelle est la différence entre celui qui fait tshuva mais ahava et celui qui fait tshuva mais ira? Tout le monde a peur. D'abord, tout le monde a peur.
Il a peur. Il a peur pour lui des conséquences.
Voilà. Mais alors, c'est normal, pose, c'est bien, non?
Ça pose la question. Alors, où est la différence entre Ira Taronej et Ira Taromemou?
Sangoula! Moi, je ne suis pas si fort que ça. Je veux savoir quelle différence. Ouais. Il n'est pas lié au rock. Peut-être que c'est justement. Il a peur de ça. On comprend, il veut se lier au roc, il est lié au roc.
C'est
je ne sais pas, c'est
pas
Hava.
Ça se commande pas, donc c'est...
Je ne sais pas si la Hava ne se commande pas, ça je ne suis pas sûr. Je crois que la Hava se commande. Mais la Hava, c'est la chose la plus difficile.
C'est faire abstraction de soi-même.
Voilà, alors il n'y a pas de raison. Moi, je suis en faute, pourquoi je ne penserai pas à moi?
Est-ce qu'on peut repartir?
C'est pas si péjoratif que ça. Mira, vous comprenez?
Est-ce qu'on pourrait...
On demande à tout le monde d'être sérieux. Et ben voilà, pour une fois qu'il est sérieux, on dit, bon, c'est rien. Bon.
Est-ce qu'on pourrait pas dire finalement que la différence est Ira, c'est la crainte de dégrader le monde, et Araba, c'est la volonté de l'améliorer.
Tout c'est bien. Pourquoi est-ce que j'aurais une volonté d'améliorer le monde? Parce que j'y trouve moins d'intérêt, non? Est-ce qu'un homme peut s'oublier?
Non.
On est d'accord? Ou alors, on parle de certains qui, bon, après un travail de toute une vie, c'est difficile de jeter la pierre à quelqu'un. Donc finalement, on est obligé de dire que celui qui fait tchouva mira, c'est pas qu'on lui jette la pierre, on lui dit, tu sais, tu veux. Il vient un jour, il se dit, bon, écoutez, ça commence à devenir sérieux. Bon, ben, si le bilan n'est pas positif, on va essayer de revenir. Ah, ça c'est tchouva mira, t'as peur de la faillite, c'est pas bien. Alors quoi? Je vais attendre tchouva mirava. On va essayer de raisonner autrement. Il arrive une catastrophe. Moi, il vient chez moi, il me dit, mais c'est quoi cette catastrophe? Moi, je suis pour rien. Est-ce que c'est ça, mon genre de réaction? Moi, je dis, c'est vrai qu'il arrive une catastrophe. Vous comprenez? C'est comme la blague, qui a cassé le vase de Soissons? C'est pas moi.
C'est sûr.
Mais pourquoi tu as pensé à toi? Tu n'arrives pas une minute à arrêter? Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et que j'ai dégagé ma responsabilité, j'ai un petit égoïsme qui fait qu'après moi le déluge et les affaires du bon Dieu ne me concernent rien. La catastrophe ne me concerne pas. Ou alors je peux dire, ce que j'étais au milieu de la catastrophe, c'est qu'il y a un problème. Et maintenant, on ne va pas essayer de regarder les responsabilités, on va essayer de regarder comment on arrange. Tchouva me'ahava, ce n'est pas pour faire plaisir au bon Dieu. C'est parce que je l'aime. Tchouva me'ahava, c'est de se rendre compte que objectivement, c'est une catastrophe et il faut l'arranger. Et même si tu ne risquais rien, il faudra aussi l'arranger. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils risquent rien, ils ne sont pas d'accord d'arranger. Vous comprenez? Il ne faut pas trop rire sur eux parce qu'on est comme ça.
Vous
comprenez? Ça veut dire que chacun a en lui quelque chose qui fait que les catastrophes du bon Dieu, ce n'est pas tellement notre affaire. C'est surtout parce que on n'a pas envie de rendre compte. Mais si on peut ne pas rendre compte, ah, que tout tombe, que tout ne marche pas, c'est pas grave. On est d'accord? Par exemple, la plupart des gens, lorsqu'ils vont chez leur conseiller financier, ils ont peur de la crise. Mais ils ne se demandent pas comment faire pour résoudre la crise. Ils se demandent surtout comment faire pour ne pas être victime de la crise. Ça veut dire que la crise, si ça ne concerne que les autres et pas moi, c'est pas si mal. Pourquoi c'est comme ça? Parce que moi je ne suis qu'un individu, je n'ai pas toutes les responsabilités du monde sur ma personne. Donc on conçoit. On va aller plus loin maintenant. J'ai des ennuis qui m'arrivent à moi personnellement. Et des problèmes qui sont à moi personnellement. C'est pas qu'on parle des autres. Et je me dis, c'est pas de ma faute. C'est déjà plus difficile à comprendre. Mais c'est toi qui perds. Qu'est-ce que ça peut faire, c'est ta faute ou pas ta faute? Il y a un carreau qui se casse chez moi. C'est un peu bébé, mais c'est demandé à qui la faute. Il s'est cassé, il s'est cassé. On est d'accord? Vous n'avez pas chez le vitrier en disant, c'est pas ma faute. C'est pas le problème, t'as un problème, tu l'es pas. Pourquoi tu parles de toi? Ça veut dire que même dans ses propres affaires, si on arrive à dégager qu'on n'est pas responsable, on se désintéresse déjà du problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ça à cœur. Ma voiture est abîmée. Je le prends en sérieux, que ce soit de ma faute ou pas de ma faute. C'est-à-dire dans ce qui est important pour moi, dans ce qui est mon cadre de vie, dans ce qui m'est nécessaire, je ne regarde pas ma faute ou pas ma faute. Et pourtant, voilà que chaque fois que j'ai affaire avec le bon Dieu, la première réaction, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu parles de ça ? Ce n'est pas de ta faute, mais c'est tes affaires. Vous comprenez ? C'est pire que ça. La faute ou pas la faute, c'est une réaction d'égoïsme par rapport à la difficulté de se mesurer au problème. Il y a des enfants, Lohal et nous, qui sont malades. Et les parents se torturent en se demandant si c'est de leur faute ou pas de leur faute. Alors on se demande, mais qui est l'enfant ? Les parents ou l'enfant ? Le problème, c'est que l'enfant est malade, le problème, c'est pas si c'est de ta faute. Mais tout le monde s'en fiche. Et comment quelqu'un m'aime à ce moment-là, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est de sa faute, ce qui n'est pas de sa faute. Parce que il a décidé qu'il ne pouvait pas faire face. Ça le dépasse. Et comme ça le dépasse, il va regarder sa petite. C'est-à-dire qu'il est possible que dans ma propre vie, je me déplace, et la seule chose qui est intéressante, c'est que c'est ma faute ou pas de ma faute. Mais ce qui m'arrive, ça ne m'intéresse déjà plus. Ça veut dire que je ne contrôle tellement pas la situation que le seul problème, c'est de savoir... Est-ce que je suis responsable ou je ne suis pas responsable? Mais Ahava, ça veut dire que j'essaie d'arranger la situation. Et que si on me disait, c'est pas ta faute, j'essaierais quand même d'arranger. Parce que c'est pas tellement le problème, c'est ma faute ou pas ma faute. C'est le ça. Problème, c'est que ça marche pas. Mais la plupart des gens ne s'intéressent pas au fait que ça marche ou non. Rien que tu leur dises pas leur faute, c'est bon. Ils ont des tsarotes, ils vont chez le rabbin. Ah, mais dis-toi, tu es hors de cause, c'est pas ta... Ah, ils sont tout contents. Mais, tu as des tsarotes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'attitude de Ira, c'est l'attitude de celui qui nie le shogeg. Le fait en lui-même, la qualité de la vie qui est mauvaise en elle-même, il est prêt à l'assumer. Le principal, c'est qu'on ne le pointe pas lui du doigt. Que la vie n'est pas de niveau, que la limite elle soit pourrie, qu'elle n'ait pas de but, c'est pas grave. Mais qu'on ne puisse pas dire que c'est de sa faute. C'est ça ce qu'on appelle Tshuva Meira. Il veut juste qu'un jour, le bon Dieu ne lui dise pas « Ah, moi j'ai peur d'être jugé. Mais maintenant qu'on me demande les comptes de ma vie, ça ne m'intéresse pas, positif, négatif, le principal qu'on ne me juge pas. » Ça veut dire que quoi ? Si on remet à zéro, et qu'on ne m'embête pas, c'est là aussi. Si c'est ça ce qu'on appelle Meira, celui qui a peur, alors on comprend que le maximum qu'on peut lui procurer, c'est le shogeg. Vous comprenez ? Puisque dans le monde du shogeg, il est à l'aise, lui, ça ne le dérange pas. Mais il n'y a rien qui marche, le Shabbat, il ne marche pas. Mais c'est pas de ma faute. Je ne savais pas comment on pouvait écrire, je ne savais pas que c'était Shabbat, je ne savais pas ça. Ah, tu ne savais pas ? Ça veut dire que la tshuva, elle va jusqu'au shogeg. Vous comprenez ? La tshuva m'ira lorsque moi je fais tshuva parce que j'ai peur. Ça veut dire que ce qui m'embête, c'est surtout le mézid qui m'embête. Mais le shogeg, ça ne m'embête pas. Et pourtant le shogeg, ça laisse une vie aussi pourrie que le mézid. Sauf qu'on ne peut pas pointer du doigt quelqu'un. Parce qu'il ne savait pas. Vous comprenez ? Mais celui qui ne savait pas qu'il ne fallait pas passer au feu rouge, et celui qui savait, il s'est pris la voiture de la même façon. Ça veut dire qu'au fond, c'est une réaction infantile d'essayer toujours de savoir est-ce que c'est notre faute ou pas notre faute. Comprenez ? Malheureusement, de même que dans le couple bon Dieu et homme, l'homme il essaie toujours de dire c'est pas de ma faute. Dans les couples ensemble, la plupart du temps, ça marche aussi comme ça. Ça peut être pourri. Si chacun peut dire que ce n'est pas de sa faute, il a gagné. Alors que le problème, ce n'est pas de la faute de qui ? C'est comment arranger que ce soit plus pourri. Non, c'est ta faute, c'est la mienne. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Vous comprenez? Ça veut dire qu'un homme doit pouvoir sortir de la dialectique, ça fait du bien ou ça fait pas de bien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire du bien ou ne pas en faire, et être objectivement mauvaise, bien que ça te fasse pas de mal, ou bien que ce soit zéro.
Par exemple.
Donne un exemple simple. C'est vrai que je fais des efforts pour étudier, je vais à des cours, je vais à des trucs. Et puis un jour j'ai des enfants, ils savent rien. Je dis mais j'ai fait le maximum. Mais on t'a pas parlé de toi, on en parlait de tes enfants. On a parlé de ce qu'ils savent. Et le type il vous répond, j'ai fait le maximum. Qui parle de ça? Vous comprenez? Ça veut dire que même dans les autres, j'essaie de regarder. Si ça ne me tombe pas dessus, c'est pas grave. Vous comprenez? C'est comme le type qui va dans la rue, on est en train de l'agresser, il crie, il crie. Chacun il parle de son côté. C'est pas mon problème. C'est sûr que ça ne me tombera pas dessus. Je ne veux quand même pas, moi, me mêler des affaires des autres. Ça, c'est l'attitude de Yira. L'attitude de Yira, c'est celui qui a grandi avec, on va dire, de petites espérances. La seule chose qu'il a goûté dans la vie, c'est le bonheur de ne pas être accusé de ci, de ne pas recevoir ça, de ne pas ceci, de ne pas cela. Mais de construire quelque chose qui existe en soi, ça ne préoccupe pas du tout. Chacun est comme ça. C'est ce qu'on appelle Tshuva Meira. Il fait Tshuva. Il est très conscient, il a peur. Mais il fait Tshuva Meira. Alors dis donc, c'est que tu es arrivé à l'inconscience, du mot conscience, du shogeg. Le shogeg, pour toi, ce n'est pas une avéra, c'est la normalité. Alors, on ne peut pas te rendre plus que quelqu'un qui est shogeg. Vous comprenez? Mais si tu as fait tshuva, ce n'est pas ta faute, ok, ce n'est pas ta faute. Mais ça reste pourri. On va s'atteler à la deuxième définition. On a dit, lorsque quelqu'un fait Tshuva Me'ava, le Mézid, il devient Zohuyot. Bon, on comprend que si on passe de zéro à l'infini, c'est que ça va coûter cher. Donc ça ne va pas être facile de faire Tshuva Me'ava. On est d'accord? Ok. Mais on va essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça peut être des Zohuyot? Un zhout, ça veut dire qu'on a fait quelque chose. On comprend qu'il y a un blanc. Ah, il faut savoir qu'il y a une halakha. Kolmi. C'est noir dans le traité de Kiddushin d'Aflamed. Chashav la'asot mitzvah. Il a pensé faire une mitzvah. Venez, il est en cas de force majeure. Malé à la bakatouv que il doit savoir. C'est comme s'il avait fait. Agma dans le traité de Sota, elle dit dans d'autres mots, Marshava Tova, Metzaref Akadosh Baruch Hu le Maase. Une Marshava Tova. J'ai une bonne intention. Maintenant, les conditions de la vie font que j'arrive pas à la mettre en pratique. C'est pas grave. On fait comme si c'était mis en pratique. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la mise en pratique? Ça peut te faire que ce soit mise en pratique ou non. C'est que ça t'appartient. Parce qu'on pourrait dire que les pensées, elles ne t'appartiennent pas. Les pensées, c'est bien. T'as pensé, t'as bien pensé. Alors c'est passé, c'est parti. La pensée, elle va pas bien parler. Non, puisque c'est une bonne pensée. Même si j'ai pas pu la réaliser, parce que je voulais la réaliser, et que l'empêchement de la réalisation ne vient pas de moi, ça m'appartient. Entre parenthèses, on a déjà expliqué souvent que le mas, et on en a besoin, pour que la marche avant m'appartienne. Répète la parenthèse.
Répétez, s'il vous
plaît. À partir d'où?
Le mal et
Le maasé, c'est-à-dire l'action, on en a besoin pour que la pensée nous appartienne. Mais l'action en soi n'a pas de valeur. D'accord ? L'action sans pensée, on parle. Donc, mais on peut comprendre que quelqu'un qui fait tchoua me'ahava, ça veut dire qu'il veut rétablir la situation. Il ne veut pas se rétablir, lui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas prendre des coups. Il a peur de ceci, il a peur de cela. Il ne pense pas à ça pour l'instant. Son problème, c'est que son cadre de vie, la façon dont il se déplace, ce soit quelque chose qui ne soit pas pourri. Ce soit quelque chose qui oublie à des règles. Où il sent qu'il est en train de faire quelque chose. Même s'il prend des coups, il ne prend pas de coups, ce n'est pas le problème. Nous, on a dit qu'on appelle ça tshuva me'ahava. C'est difficile parce qu'il y a une notion de responsabilité. Alors il regrette ce qu'il a fait. Mais puisque ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'environnement, par rapport aux choses, par rapport au monde, on est d'accord que s'il avait pu construire pendant ce temps-là, maintenant, dans la situation dans laquelle il est, c'est absolument ce qu'il veut. Ça veut dire que ce qu'il a détruit, lui, il aurait été aujourd'hui le premier à vouloir le reconstruire. Seulement, c'est du passé. On ne peut pas reconstruire le passé. Seulement, tout celui qui voudrait faire et qui n'arrive pas à le faire,
c'est comme s'il l'avait fait.
Donc, toutes les avérotes qu'il a fait, c'est-à-dire tout ce qu'il a détruit, qu'aujourd'hui, lui, il essaie d'effacer parce qu'il voudrait que ce soit construit, puisque tu veux tellement que ce soit construit, on considère que c'est construit. C'est construit. Les zedonot, ça veut dire que les fautes qui ont été intentionnelles, puisque tu as fait me'ahava, que ta préoccupation c'est de remettre les choses en place, c'est ça ton souci, et bien c'est comme si tu avais fait la mitzvah à la place. Ça devient des zedonot. Vous comprenez? Donc maintenant, on peut comprendre cette Gemara. La Gemara vient et nous dit, voilà. Tshuva me'ahava. La tshuva qui est faite par Ahava. Ahava, ça veut dire le souci d'eux. On a déjà souvent qu'en hébreu, l'amour, c'est se soucier de l'autre. C'est de prendre l'autre en considération. C'est ça ce qu'on appelle Ohev. Celui qui prend le système que la Torah met en place en considération, pas parce qu'il a peur qu'il soit vrai, que ça se retourne contre lui et qu'il soit puni ou non, parce qu'en soi, il a le souci du système. Ce qu'il a fait intentionnellement de Méside et que lui aujourd'hui voit toute la destruction par rapport à ce système-là, on lui a reconstruit le système. Il n'y a plus de destruction. Donc ça devient détruit. Celui qui le fait parce qu'il a peur, on appelle ça Tshuva Meira. Alors, le système ne l'intéresse pas, juste, il ne veut pas qu'on s'en prenne à lui. Alors, tu es dans le cas de Chogeg, c'est pas de ta faute, on ne peut pas s'en prendre à toi, mais le système est quand même cassé. Donc, tu perds quand même. Vous comprenez? Nous, on a demandé, mais c'est quoi ce compromis? C'est pas du tout un compromis. C'est dans l'ordre des choses. On est d'accord? On a raisonné maintenant, pendant une demi-heure, sur une notion incompréhensible. Quelle est la notion incompréhensible? C'est que les choses, elles s'effacent, elles se transforment, elles se machinent. Et on n'est pas choqué. Pourquoi? Parce que, au-delà de la compréhension des choses, il y a des choses dans lesquelles on croit. Et on va donner un exemple. Il est écrit dans le tour d'Amen à Midrash que à Rosh Hashanah, le juif des patristes Parce qu'il est batoir, il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu yaseh l'onès. Akadosh Baruch Hu va lui faire un miracle et sa tchoua va être agréée. Ok. C'est la raison pour laquelle chez nous, bien que Rosh Hashanah soit le jour du jugement, le Yom Hadin, on essaie d'être joyeux, bien que c'est le seul Yom Tov dans l'année où on a le droit de jeûner. Quand même, on essaye que ce soit à la hauteur des autres Yom Tov. Mais il y a quand même marqué Betuchim sheyaseh lahem nes. Un jour, j'ai rencontré un juif à Yom Kippour. Sortait de la synagogue vers 5 heures. Vous voyez tout de suite le genre. Celui qui n'arrive pas à attendre 7 heures pour aller manger le sandwich. Je lui ai dit, où est-ce que vous allez? Ah, il me dit, rabbin, c'est dur, au moins une petite clope. Hein. Bon. Puis, mais ça ne vous choque pas? Ah, il me dit, de toute façon, aujourd'hui on est content, on fait tchouva, ça y est, on recommence à zéro. Je lui ai demandé, dites-moi, est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï, et à Kadosh Baruch Hu lui a donné un Sefer Torah écrit de sa main, et il l'a amené au Bnei Israël? Il me dit, c'était à quelle époque? Il dit, encore avant les Grecs, encore. C'est un peu romancé, cette affaire. D'accord. Donc vous n'y croyez pas? Non, non. Et comment vous croyez à la tchoua? Ah. Tu n'arrives pas à croire ce que la Torah te dit. Comment Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï avec un Sefer Torah. Et tu arrives à croire une chose improbable, impossible, incompréhensible, qui s'appelle la tchoua. Comment ça se fait? Si on vient chez toi, on te dit, voilà, vous êtes en débit, moins 65 000 francs la banque, mais c'est pas grave, comme c'est aujourd'hui dimanche, demain vous êtes à zéro. Tu te dis, je peux pas croire une chose pareille. Et alors comment est-ce qu'on arrive à le croire si facilement en ce qui concerne la tchoua? Ah, il y a deux réponses. Ou on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ou alors on pense que les fautes sont tellement insignifiantes que c'est pas grave qu'on recommence à zéro.
Ou si peut-être ça nous arrange.
Attention. Je ne crois pas à tout ce qui m'arrange, parce que vous vous rendez compte combien de choses qui m'arrangent et auxquelles je n'arrive pas à croire. Moi, ça m'arrangerait énormément que mon banquier, il me mette tout à zéro. Non. Et je suis sûr que si j'avais une lettre dans ce sens, je serais certain que c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Pashut Rabotai, c'est parce que on croit tellement pas à la Vera que ça ne nous gêne pas que la Tchoua soit incompréhensible. C'est évident. Parce que c'est un système dans lequel on n'est pas vraiment. Alors si déjà tu me fais le coup de la Vera, tu me fais en même temps le coup de la Tchoua, alors je suis content, ça y est, c'est bon.
Les deux s'annulent.
Mais les deux s'annulent. Et ça ne m'a pas vraiment fait une grande impression. Donc on peut facilement parler de Tchoua. Mais si vraiment on y pense, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et je vais vous dire pourquoi. On va traduire la tchouva, pas dans Ben Adam la Makom seulement en ce concerné, Ben Adam la Chavero. Est-ce que je crois vraiment que si j'ai pillé, tué, été méchant, comme j'ai fait tchouva, alors je risque plus rien? Mais le type avec qui j'étais méchant, il va venir. Il va me dire tu vois ou pas, mais il va m'en fiche plein la figure. Je suis obligé de m'amener que si j'ai fait tu vois, il pourra pas. Est-ce que j'y arrive à ça? Je vais dire tu vois, mais ça peut quand même pas commander les personnes. Ah, donc la tu vois n'a pas de réalité. Elle n'existe pas. Vous comprenez? Les Tosfot demandent dans la Gemara dans Mabatra. Voilà quelqu'un qui a eu une union illégale ou illicite, qui a eu un enfant mamzer. Il a fait tchouva. Et alors, le mamzer, j'y crois ou j'y crois pas?
C'est dur.
Ah, pourquoi? Ça c'est la réalité, ça c'est pas des spéculations. Ah, donc le reste c'est pas la réalité vraiment. Comprenez? Dès que ça devient sérieux, on n'y croit plus. Alors c'est normal que quand on vous dit tu fais des trucs, tu vas, tu dis bon, c'est ok. Parce qu'au fond, tu n'y crois pas. Ça veut dire que si vraiment je pense que le système qui régit le monde, c'est pas celui que je vois, mais c'est celui qui est décrit dans la Torah, que la Avera entraîne la Avera et la Mitzvah entraîne la Mitzvah alors que je vois pas ça, moi je peux expliquer tout ce qui arrive autrement. Alors je peux commencer à raisonner sur la tchouva, mais sinon je peux pas. Parce qu'en vérité c'est des mots. Vous comprenez? On va aller plus loin encore. Le Maharal de Prague amène d'un verset dans Michelet, Rabote Arba Hashem Yusugav, que si quelqu'un a vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, alors ce que nous lisons Rotson Yureya Vyase, qu'Akadosh Baruch Hu fait la volonté de celui qui le craigne, ça se passe vraiment. Il fait tchouva, il a plus à la crainte. Combien je suis prêt à mettre là-dessus? Comprenez? Ça veut dire que je suis obligé de considérer une autre réalité que celle avec laquelle j'ai l'habitude de raisonner. Et puisque je suis obligé de considérer cette autre réalité, alors cette dimension de la tchouva, elle commence à prendre corps. Elle commence à prendre corps chez qui? Chez celui qui a pris la valeur de la avéra. Plus je pense que la avéra est grave, et plus j'arrive à penser que la tchouva, elle est possible. Moins je pense que l'avéra est grave, et moins la tchouva est possible. Ah, ce que je dis qu'elle est là, ce sont que des mots. Mais en vérité, je ne suis pas d'accord de rentrer dans ce système. On va aller plus loin encore. Nous, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, on dit une phrase. Im que banim, im que avadim. Ou tu nous regardes comme des fils, ou tu nous regardes comme des serviteurs ou des employés. On parle de l'esclave juif, pas de l'esclave non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire fils, et qu'est-ce que ça veut dire serviteur? Il est souvent écrit dans la Gemara des phrases dans le genre Osim Rotsono Shel Makom. Osim Rotson Konam. Si on veut traduire bien en français, Osim on fait, Rotson la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu? La loi a dit ceci. Celui qui est considéré par Dieu comme un esclave ou comme un serviteur ou comme un employé, c'est qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Celui qui est considéré comme un fils, ce qui fait la volonté divine. Nous, on aurait dit, mais c'est le contraire. Ou au moins, l'esclave, l'employé, le serviteur, ben, il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui dit. Si on c'est ni un esclave, ni un employé, c'est un serviteur. Si l'esclave peut dire non, si le serviteur peut aller travailler autre part, alors comment on peut dire que lorsque le peuple juif est appelé Avadim, comme il est marqué, qui lit Béni Israël Avadim, c'est lorsqu'ils ne font pas la volonté divine. Lorsqu'ils sont appelés Banim, comme il est marqué Banim Atem Hashem Elokechem, c'est qu'ils font la volonté divine. D'Aberel Béni Israël. C'est faux. La réponse, elle est celle-ci. Lorsqu'on dit que le serviteur, c'est celui qui ne fait pas la volonté, le serviteur, le collaborateur, l'employé, c'est celui qui marche selon des ordres. Mais la volonté ne l'intéresse pas. Si le patron m'a dit de faire ça, je fais ça. Ah, je sais, ça mène à la catastrophe. Il m'a dit de faire ça. C'est pas mon affaire. Sa volonté ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Le fils, il ne va pas selon l'ordre du père, il va selon la volonté du père. Ça veut dire que si un père a son fils qui travaille avec lui, il ne va jamais dire c'est ce que le père a dit. Il va essayer de faire de France, de savoir qu'est-ce que le père pense. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas intéressant. C'est ce qu'on appelle aussi Mrotsono chez le Makom. Il y a deux systèmes. Il y a celui qui dit, bon ben, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et il y a celui qui se demande, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est la même chose, mais Ava ou Mira. Celui qui dit, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est que c'est par rapport à lui. Ça veut dire quoi? En vérité, c'est pas mon problème. Tu peux rien me dire parce que...
Tu veux pas être responsable.
La seule justification de mes actes, c'est de ne pas être obligé d'en donner compte. Je suis réglo. Mais on s'en fiche terriblement. Le type qui a bien fait son travail, le bateau coule, il peut continuer à répéter 100 fois qu'il est rigolo, il va couler avec tout le monde. Ben, c'est pas celui qui va être rigolo. C'est celui qui se demande comment on peut faire bien. Vous comprenez?
Mais il y a un danger parce qu'il risque d'être
un croyant. Absolument. Ça veut dire que quelquefois, je dis pas que les deux font pas de bêtises. Je ne dis pas que même lorsque les Israélites sont Nikraïm Bani, ils ne font pas d'Averot, mais ils font Rotsono chez le Makan. Ça veut dire qu'ils essayent d'être ce qu'on voudrait d'eux, et pas de ne pas encourir les troubles du ciel. Ils essaient pas d'être réglo, ils essaient de correspondre à la volonté de Dieu. C'est tout à fait une autre définition. De ces deux choses dépend comment on aborde ce problème de la tchoua. Si j'essaie d'être réglo, alors je dis voilà, là, je ne suis pas réglo, je commence à être réglo. Alors ça, on appelle ça tchoua mihira. C'est la petite tchoua. Je peux dire que c'est pas bien. Mais, on n'est pas obligé de te donner en échange une qualité de la vie. T'es quelqu'un qui fait beshogeg.
C'est un fonctionnaire, quoi.
Tiens, moi, j'ai rien contre les fonctionnaires. Mais, j'ai la possibilité de chouver mes Ava. Nous, on croit que chouver Ava, c'est dur, et c'est vrai que ça a l'air dur quand on parle de Ava, parce que Ava, c'est quelque chose de difficile. Mais si on regarde, on va s'expliquer encore d'une autre façon. Nous, on croit que lorsqu'une grande Sarah, ça va sur quelqu'un, il y a deux possibilités. Ou c'est pour le rendre meilleur, ou c'est parce qu'il a besoin de ça maintenant. C'est la conséquence de ses actes. Il faut assumer. Dans un cas, ça veut dire, si c'est la conséquence de mes actes, ça veut dire que ça ne pouvait pas être autrement. C'est difficile à assumer. Et si c'est pour rendre meilleur, ça voudrait dire que dès que je suis meilleur, ça s'arrête. Au moins ça. C'est-à-dire que ça n'a d'impact que tel que j'étais hier, mais tel que je suis aujourd'hui, ça n'existe plus. Qui c'est qui est capable d'imaginer en vérité que la réalité telle qu'on la voit, telle qu'on la touche, elle dépend de moi? Je ne suis pas capable. C'est une grande difficulté. Et pourtant, c'est l'ABC de la tchoua. Parce que si je ne suis pas capable de croire en ça, c'est pas même que je commence avec la tchoua. Parce que la réalité ne se change pas. Comprenez? Alors que toute la base de la tchoua, c'est que la réalité dépend de moi. Le Gaon de Vilna, il dit que la chose la plus importante de la Torah dans les mitzvot, c'est ce qu'on appelle le bitachon, la emouna. C'est d'avoir une idée claire que la réalité n'existe pas. Et que les choses, elles sont par rapport à moi. C'est-à-dire que je rencontre tel phénomène, en vérité, c'est par rapport à moi. Je change, il n'y a plus de phénomène. Attention, il faut aussi garder les pieds sur terre. On ne peut pas avoir des signes partout et des... Comprenez? Il faut aussi être intelligent. Mais ça veut dire que je raisonne avec une matière qui n'a rien de raisonnable. Elle est même folle. Comprenez? C'est-à-dire que si demain vous allez raconter ce chiot à votre patron ou votre employé, il vous regarde comme si vous étiez un demeuré. Et pourtant, un jour on verra comment toute l'histoire est générale et particulière de chacun, elle n'a tourné qu'autour de lui et qu'il n'a jamais été victime de quoi que ce soit qui soit étranger à lui-même. Pourquoi? Parce que si on a mis l'homme en dernier dans la création, c'est que la création elle est pour lui. Sinon on l'aurait mis en premier. Et si c'est pour lui, c'est qu'il n'est jamais une victime. C'est lui qui commande les propres événements. Et même s'il y a des choses qui le dépassent à l'échelle individuelle quelque part, c'est pas si grave. Mais en tout cas, il n'y a pas de victime. Quand l'on a dit Einav que Yoni Malafik et Maïm. Que le Midrash dit Einav que Yonim, le Sanhedrin, il est les Eine Aïda. Alors maintenant on commence à comprendre. On a dit il y a deux choses. Je dois pouvoir raisonner avec des notions que je ne comprends pas, qui sont du ressort de l'Aïmouna, et sur lesquelles je me mets à raisonner. Il y a encore une autre chose. Atche osim otan nekiyum kichalav. Les halachot les plus complexes, on va dire même les moins réelles, elles doivent être conçues de façon à ce qu'on sache les appliquer. Lorsqu'il y a marqué Rochatsot Bechalav, c'est-à-dire clair, propre, la halacha, on peut se resservir de l'exemple des Rochouva. Si quelqu'un sincèrement, il a fait Tchouva, il a fait son vidoui, il a donc accompli la mitzvah de Tchouva, il est en lieu d'espérer que les changements qui doivent s'opérer vis-à-vis de lui, et qu'il ne verra jamais, mais dont il doit être obligé d'être conscient, sont réels à partir d'un acte qui est brut. Si on me dit que, une fois faire telle et telle chose, j'ai accompli la mitzvah, c'est que c'est accompli. Si on me dit que c'est pas accompli, c'est que c'est pas accompli. Les choses doivent être extrêmement claires. Parce que si je suis jamais sûr d'avoir fait tchouva, alors je suis où? Si je suis jamais sûr que... Alors je suis dans le cas du type que... Il peut jamais comprendre quoi que ce soit à ce qu'il fait, parce que il sait jamais où il en est. Lorsque moi, je pense que les choses sont résolues, il faut que la racha soit assez claire pour que je ne me dise pas non qu'il manque encore quelque chose. C'est résolu, c'est résolu. La troisième chose, ce qui a marqué Yoshvot al Milet, ça veut dire que ça, on va dire, en français on dit, on ne sait plus comment dit cette expression-là, ça a droit de citer. Ça a pignon sur rue. La halakha, elle doit pouvoir donner lieu à ce qu'on appelle le mishpat. Le mishpat, c'est une chose qui a l'air claire, ce qu'on dit mishpatim. Et les mishpatim, c'est une chose qu'on comprend. Mais qui est très mystérieux. Je veux dire pourquoi. Il y a des règles dans le Mishpat qui sont des règles qui sont des règles qu'on s'attendrait pas de trouver dans une chose qui est définie comme le mishpat. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si quelque chose est cachère ou pas cachère. Je m'informe. Je ne sais pas si Shimon a emprunté à Rouven. Le juge ne peut pas s'informer, il faut deux témoins. Tu as un témoin? Terminé. Si Rouven affirme qu'il n'a pas emprunté, je ne peux rien faire. Il y a des règles du Mishpat. Ces règles ne s'appliquent qu'au Mishpat. Elles ne s'appliquent pas à la vérité. Ce soir, si quelque chose est vrai, tu peux faire confiance à quelqu'un dans telle et telle condition. Il y a d'autres halakhot. Ça s'appelle Ed Echad Neman Beisurim. Un Ed, un témoin, il est Neman, c'est-à-dire on peut lui faire confiance, en ce qui concerne les choses de Isurim. C'est permis, c'est interdit. Dans le mishpat, deux témoins. J'ai pas de témoin, pas de mishpat. J'ai mis attention. Je sais très bien, j'ai fait attention, j'ai une cassette vidéo, pas audio, et je l'ai vu la main dans le sac. Non. Je peux rien faire. Alpi, Shnaim, Edim, il y a deux témoins qui viennent témoigner. Dit le Rambam dans les Ilchot Yesod de la Torah, ce que la Torah l'a demandé de témoins, c'est pas parce que tu es sûr qu'ils disent vrai. Quelquefois deux témoins peuvent être plus malins que le Sanhedrin, et on peut même faire exécuter quelqu'un en mentant au juge. Ce que la Torah a demandé chez Shneidim, Gzerat Akatuv I. Gzerat Akatuv, ça veut dire c'est un décret, une décision du verset. Voilà, c'est un choc, il n'y a rien à comprendre. Ça veut dire que quoi? La Torah elle-même, elle te dit, je ne t'ai pas dit que les deux, ils sont toujours vrai. C'est vrai que deux témoins, c'est mieux qu'un. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Gzera takatu, c'est la forme du jugement. Bizarre, hein? On va dans le Mishpat Alpirov. On va d'après la majorité. Tout le monde sait que la majorité, ce n'est pas une garantie de vérité. Ça n'est que des statistiques. On tue quelqu'un à majorité. Le pauvre est comme une minorité. Pire que ça, s'il y a une majorité absolue, 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 qui arrive jusqu'à
69,
jusqu'à tous les membres du Bédin, il est libéré. 71 membres. Il est libéré. Mais puisque la majorité, c'est tellement bien, quand tu arrives à ce qu'il n'y ait même plus de minorité, ça va être encore mieux. Non, ça ne s'appelle plus une majorité maintenant. Il faut qu'il y ait deux côtés. Sinon, c'est pas du mishpat, c'est l'anarchie. Si tout le monde est d'accord, c'est que ça ne va plus. Est-ce qu'il y en a un qui commande quelque part?
Non, c'est incompréhensible.
C'est ça. Mais là-bas, c'est lorsqu'on parle d'opinion. Mais ici, on parle de justice. C'est-à-dire, si tout le monde est d'accord que quelqu'un n'est pas coupable, on le rejuge. Et le pauvre, il n'est vraiment pas coupable. Tout le monde est d'accord. Tiens, on recommence. Ça va pas là.
Mais alors, la question qui se pose, est-ce que... Est-ce qu'il faut voter les gens de Sanhedrin dans le secret ou il faut voter en public? Parce que si quelqu'un voulait le sauver, il n'a qu'à dire coupable.
Absolument. Mais il faut justifier. Comprenez, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Je vous donne un autre exemple. On fait confiance à n'importe quelle personne qui a une réputation d'être intègre. Pour toutes les halakhot, par exemple. Tout le monde sait très bien qu'un rabbin dans sa communauté, si la viande elle est trop souvent taref, on cherchera un autre rabbin. Et c'est pas pour ça qu'on va dire que lui... On ne peut pas lui faire confiance pour savoir si la viande est cachée ou non. Ça s'appelle en hébreu Nogea Bedavar. Quelqu'un qui est Nogea Bedavar, il a le doigt sur la chose. C'est-à-dire qu'il subit les conséquences de ses opinions. Celui qui subit les conséquences de ses opinions, on a le droit de lui faire confiance en toute chose. Pour des choses importantes. Il a le droit de juger tout ce qu'on peut juger seul. Mais dès qu'on est à trois et qu'on s'appelle Mishpat, justice, si un jour un des gens qu'on juge a eu un rapport avec toi où il t'a donné un cadeau, il t'a donné une alpha, il t'a donné un prêt, ça il ne peut plus être juge. Nogea Bedavar, il ne peut plus être juge. Au point que l'Agma raconte que Rav avec son métayer, pour quelques centimes, il ne pouvait plus juger. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Chazanish, je l'explique, il dit parce que le Mishpat, c'est un din spécial de la Torah. Tu rends la justice. Quand on rend la justice, ça oublie à d'autres critères. On devient sensible à ce qu'on appelle le shochad. Ah, tout seul, tu n'es pas sensible au shochad? Non. Un homme normal doit être capable d'être au-dessus de ces choses-là.
Mais
dans le Mishpat, non. Donc je veux que c'est notre réalité.
Qu'est-ce qui fait que dans le Mishpat, il devient incapable alors qu'il est déveillé?
C'est la nature même du Mishpat qui est une autre nature, c'est ça ce que je vous dis. C'est que ça n'obéit pas à ce que nous, on pense être le Mishpat. C'est les Chokim, l'un après l'autre. Et on appelle ça Mishpatim. Parce que on comprend qu'il faut juger. Mais on ne comprend pas beaucoup plus loin. Ça veut dire que non seulement la halakha doit être claire, c'est ce qu'a marqué Rochatzot Bechalav, mais Yoshvot al Milet. Ça veut dire que la Torah elle doit pouvoir se transformer en opinion de Mishpat. Elle doit pouvoir avoir pignon sur rue et donner la loi. Lorsqu'on donne la loi, c'est tout à fait différent. que lorsqu'on exprime une opinion. Le Mishpat, c'est celui qui donne la loi Iran, la justice. Ça veut dire que la loi est théorique, c'est eux qui l'interprètent. Ceux qui disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça obéit à d'autres critères. On doit prendre d'autres précautions. Alors que, Alpi Sechel, en tant que Ed Echad, on peut faire perdre ou gagner des centaines de millions à quelqu'un, alors qu'on peut être pas saoul en tant que deux Edim, pour 20 francs, au tribunal. Donc c'est pas dans l'ordre de grandeur. C'est dans la nature du Mishpat. Donc vous voyez bien que quoi ? Que ce qui est marqué, c'est une nature de la Torah de pouvoir se transformer en justice, c'est que la Torah, elle a cette nature spéciale qui fait que bien qu'on me dit il faut pas tuer, il faut ceci, il faut cela, il faut rendre, il y a des règles pour l'emprunt, il y a des règles pour ceci, il y a des règles pour cela, et les règles m'ont l'air totalement compréhensibles, finalement ça m'a l'air compréhensible, mais j'obéis à un système de choc absolu sur lequel je raisonne. C'est-à-dire que le juif, il doit pouvoir puiser dans toutes les possibilités de sa logique, mais à condition qu'il garde la émouna, et la chose sur laquelle il raisonne, elle est totalement, elle échappe totalement, non seulement l'entendement, mais toute sa logique. Donc je suis quelqu'un qui raisonne, et qui établit des lois, qui établit des choses qui sont tout à fait structurées, mais à partir d'un tissu qui échappe totalement à la réalité.
Mais est-ce que ce tissu qui échappe totalement à la réalité, il n'est pas pour aller vers une appréhension exacte de la réalité ?
Ça, c'est ce que je crois.
Mais ça veut donc dire... Est-ce que c'est ou c'est différent ?
Non, non, c'est ça. Mais ça veut dire que j'affirme, moi, que c'est ça la réalité, mais j'en vois une autre. Vous comprenez ? J'en vois une autre. Je vous donne l'exemple typique. L'exemple typique, c'est l'exemple moral. C'est quoi l'exemple moral ? C'est dire qu'il n'y a pas de morale dans le monde. Tzadik veut
ralo,
racha, ça veut dire quoi ? On ne voit pas que le juste est récompensé et que le méchant est puni. On ne voit pas. Le monde est injuste. On est d'accord ?
En apparence.
On va écouter ce qu'il dit David Ameller. Vous connaissez Reb David ? David Ameller, tous les vendredis soir, parce qu'il a aussi des... Je ne sais pas les télim, c'est pas simplement pour les dames. Tous les vendredis soir, on dit comme ça. Ishbar lo yeda ursil lo yavin et zot. Ishbar, la culte, Loyeda, il ne saura pas ça. Oursil et celui qui est léger, Loya Vinetzod, il ne comprendra jamais ça. Bifroar Rechaim que Moïsev. Que le Racha, Foréar, il fleurit comme Esev. Le règne minéral, végétal. Vayatsitsu kol poale aved. Tout celui qui fait le mal, Vayatito, il émerge, il vit une belle vie. C'est quoi la question ? Ishbar loyeda ursil avinezot. Il faut être un imbécile pour ne pas comprendre. Bifroa rechaim que Moïse, Vayatitsu kol poléod. Quelle est la réponse ? Il continue. Tu sais pourquoi c'est comme ça ? Le Ishandam adéad. C'est pour les perdre, pour toujours. Ça veut dire quoi ? Il n'y a que celui qui est Xil ou qui est Ishbar qui ne comprend pas que la nature des choses, c'est que le rachat, il soit récompensé pour les petites choses qu'il a fait de bien, parce que c'est sa monnaie, et qu'il n'a pas d'autre espoir. Alors que le tzadik, ça ne l'intéresse pas. Ish ba'ar lo yeda ursi lo yavin et zot bifroa roshem kumo yisev. Pourquoi ? Parce que tu oublies le ishanda amadea. Ce qui fait que tu te révoltes et tu penses qu'il n'y a pas de justice, c'est parce que tu prends en compte simplement ce que tu vois. Alors qu'il fallait prendre en compte Adéad jusqu'au bout. Et ça, tu ne l'as pas pris en compte. Ça veut dire que ce qui est une question formidable pour nous, c'est parce qu'on est Xil et Baal. On est des bêtes. Parce qu'on regarde toujours
à court terme.
À court terme. On ne sait pas voir Adéad. Mais si on savait Adéad, on irait chez le Racha et on lui dirait Bracha.
Regarde.
C'est honteux, regarde ce qui se passe. Tiens une Jaguar, tiens un machin, tiens un truc, tiens un yacht. Mais regarde, ça va de pire en pire. Tiens encore ça. Et encore tu gagnes à la bourse. Et encore ça. Mais c'est de pire en pire. Ça manque quoi? On dit, mais c'est dégoûtant, tu sais, monsieur.
Mais c'est si on le.
C'est dégoûtant. Au contraire, on devrait trouver ça normal. Et ce qu'on arrive à ne pas trouver ça normal, c'est parce que la logique on l'a, mais ce sur quoi on raisonne, on a oublié.
Mais ça pose une question sur le raisonnement.
Quoi?
Celui qui a une perception mais du monde, mais de la tchouva, mais haba, et avec tout ce qui va avec, tout ce que vous avez dit ce soir, absolument fantastique, qui va avec, bien entendu.
Voilà.
Bon, si le fait qu'il soit privé par l'injustice des moyens qui lui permettraient de réparer
non,
le monde.
Non, vous en faites pas. Pour réparer le monde, c'est d'autres moyens dont on a besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Nous, ce qui nous perturbe, c'est qu'on peut se mal conduire et réussir. On est d'accord? C'est-à-dire qu'on voudrait que ce qui est chez nous de l'Aïmouna, ça puisse être vu dans la réalité. Vous comprenez? Ça veut donc dire qu'on n'a pas de perspective de Adéad. Parce que si on a la perspective, il ne faut surtout pas qu'on ait le dernier mot ici. Vous comprenez? Surtout pas! C'est-à-dire que si vraiment le petit contentement que j'ai ici, c'est ça la récompense de la mitzvah, alors je ne commence pas. Moi je veux quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'il faudrait dire. Seulement encore, on préfère à ce que les choses aient de petites dimensions. Alors on dit, tu vois, il a la bracha, il a réussi. Et après il a réussi, il a tué père et mère. Nous, on doit être capable de raisonner d'un côté, mais de garder les gdarim, garder les structures de l'aïmouna de l'autre côté. Et l'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour ça que les gens sont surtout perturbés, très souvent perturbés. Quand on parle de choses politiques dans le cas d'Israël, quand on parle de l'avenir du peuple juif, quand on parle de la guerre, quand on parle... Pourquoi? Parce qu'on voudrait tzadik tovlo et racha rado. Il y en a même qui vous disent, il est temps déjà de toucher les dividendes, ou il est temps que la galoute s'arrête. Moi, je suis toujours émerveillé par leur savoir extraordinaire. Comment tu sais qu'il est temps? Qu'est-ce que t'en sais? D'où tu sais et comment tu juges? Alors, comment on doit avoir? Quelle attitude on doit avoir? Nous, on doit avoir l'attitude inverse. C'est les choses étant ce qu'elles sont. Quelle part on peut avoir là-dedans? Mais d'essayer toujours de refaire la réalité selon ce qu'on pense qu'elle devrait être, c'est la négation de toute chose. C'est la raison pour laquelle on doit s'habituer soi-même que plus l'idée de tshuva, elle s'impose en nous, et plus on doit avoir peur qu'on minimise les choses. Parce que pour que l'idée de tshuva, elle s'impose en nous, il faut au contraire qu'on prenne très 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 au sérieux les choses. C'est juste le contraire. Donc il va sortir qu'il y a trois catégories. Il y a celui qui ne croit pas, lui fait toujours tshuva. Il n'a pas de problème. En 10 minutes, à Chamno, il a terminé. Il y a celui qui croit, Parce que c'est un tzadik. Plus il a la conscience de la vera, plus il a conscience de la tchoua. Il n'a presque pas besoin, lui, de la tchoua, puisqu'il est un tzadik. Et celui qui a vraiment besoin de la tchoua, ça lui est difficile d'y croire. Vous comprenez? Parce que c'est de même nature. Pourquoi est-ce que moi j'y crois? Parce que je fais la vera petite. Mais si on me disait, tu sais, il va t'arriver un S. Mais j'y crois jamais, moi, un S. Vous comprenez? Un type vient aujourd'hui chez vous, il dirait, bon, ça s'est bien passé aujourd'hui, ah oui, ce matin, j'ai eu un S. S'il est vraiment sérieux, on n'y croit pas. Et on préfère l'éviter, ce gars-là. Pourquoi? Parce que c'est des raisons qui sont en dehors de nos structures. Ah, si c'est en dehors de nos structures, tu ne veux pas y avoir recours. Comment est-ce que tout doucement on peut avoir la possibilité d'avoir cette sensibilité-là en comprenant que le système de Mitzvah d'Avera, il est tellement sérieux qu'il ne peut exister que si il y a la tchouva. Et sinon c'est impossible de s'en sortir et c'est une idée qui s'imprime que le monde sans la tchouva ça ne pourrait pas exister, donc c'est obligatoire que ça existe. Et c'est des choses qui deviennent une réalité par l'obligation qu'on a de leur donner une réalité, une consistance. Mais si moi je pense que ce n'est pas important, alors tu es important non plus, c'est pas grave d'y croire. C'est pour ça que lorsqu'on dit à Rosh Hashanah, on est sûr qu'on va avoir un S, c'est plus dur de se réjouir maintenant qu'avant. Vous comprenez? Parce que de quoi je suis content? Du S que je vais avoir. C'est pas facile d'y croire. La légitimité de la Torah, elle est là-dedans, que même dans les mishpatim, même dans les choses que j'arrive à comprendre, ou avec lesquelles j'arrive à raisonner, il y a toujours cet inconnu qui fait que plus j'ai d'émouna, et plus j'ai de possibilité de comprendre. C'est-à-dire que même ce qui est mishpat, ou même ce que, dont on pense que c'est le Sanhedrin qui s'en occupe, il ne faut pas croire que les choses, elles n'ont pas de base, la base de l'émouna. C'est-à-dire que ce serait une illusion de vouloir affaire au halakhot et de ne pas travailler sur sa émouna. C'est impossible. Bon, vous avez sûrement une question à poser.
Oui.
Allez-y. Allez-y.
De quel texte
de... Attends, 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 c'est pas grave. Là, j'ai rien entendu. Les issourim. C'est-à-dire que vous voulez savoir si quelque chose est caché ou non, il vous suffit d'avoir un témoin qui vous dit oui. Alors, Rav, moi, je connais pas tellement les titres, donc je peux pas vous dire. Mais vous devez demander à quelqu'un qui d'abord sait ce qui se passe et ensuite qui s'y connaît. Mais il n'y a pas besoin d'amener une artérie lourde comme deux témoins. Et les issourim, c'est pas seulement ce qui est caché ou non, ça peut aller très loin. Il y a des choses. Mishpat, c'est chaque fois que ça. C'est un litige entre deux personnes. Ou chaque fois qu'on doit appliquer une peine à quelqu'un. Les deux s'appellent mishpat. Ouais. Le lashon hara, c'est à la limite du mishpat et des issourim. Parce que vous condamnez quelqu'un, mais vous ne l'avez pas touché, et vous ne lui avez rien infligé. Mais finalement, vous l'avez tué. Alors.
Oui, sur quel texte nos sages se sont basés pour nous dire, pour la personne qui a fait une bonne teshuva, ses fautes seraient transformées en bonne action en fait.
Et vous regardez dans la Gemara, dans le traité, dans le Talmud, dans le traité de Yoma,
ouais.
Page 37.
C'est Rabbi Meir qui s'est en nombre à se rapporter au bureau.
Une autre.
Ouais.
J'ai abrégé juste. Vous avez dit tout à l'heure d'entrée des Bhavamatras, vous parlez du Mamzer. Et si j'ai bien entendu, j'ai peur d'avoir mal entendu, vous avez dit que les parents qui faisaient des chouvas entraînaient en fait la disparition de l'enfant.
Ça pourrait, on pourrait imaginer ça, oui.
Ça pourrait. Alors c'est un petit peu grave parce que, imaginons une personne qui sache cela, ne va pas faire des chouvas dans la crainte de perdre ses enfants.
Et faire tu vois jusqu'au point de sacrifier son enfant,
parce que
c'est quelque chose qui est difficilement
mais parce que dans la paracha justement quand il parle de pour les amonites dont je disais qui seront pendant la 10e génération ne pourront pas rentrer dans le clan de la joie au pro Léola, hein, d'accord. Alors que pour le même verre, il a dit jusqu'à la dernière, la 10e génération, mais il n'y a pas marqué les Olam.
Ça n'a rien à voir.
Alors pourquoi vous m'avez dit, pourquoi vous avez dit
Gam Dora Cyril. Ça n'a rien à voir. Un mamzer ne peut jamais rentrer dans le peuple juif. Le problème, c'est qu'un mamzer, puisqu'il ne peut pas rentrer dans le peuple juif, c'est très peu transmissible, vous comprenez? Parce qu'il doit se marier où avec un mamzer?
Reconverti.
Donc c'est plus difficile. Donc il y a moins facilement de descendance. Mais c'est le même principe.
Et quand il se marie avec une mamzera ou avec...
L'enfant est mamzer.
L'enfant reste mamzer, d'accord, mais est-ce qu'il rentre dans le clan Israël?
Non.
Non. Attention. Ça dépend ce que vous appelez le clan Israël, il rentre.
Non,
mais dans ce qu'on appelle le Kaal. Vis-à-vis d'Haché, il n'y a pas de différence. Puisque la Gemara a dit qu'un Kohen Gadol Mamzer, un Talmid Chacham Mamzer passe avant le Kohen Gadol qui n'est pas un Talmid Chacham. Donc le bon Dieu, lui, il n'a que faire des structures. Mais pour nous, je vais vous dire, moi je ne crois pas qu'on puisse tuer quelqu'un. Donc je ne crois pas que quelqu'un puisse mourir à cause de quelqu'un d'autre. Je crois juste qu'il peut y avoir la rencontre de deux choses. Le fait que le mamzer n'est pas programmé pour longtemps, et le fait que ses parents fait tchouva.
Ça ne me donne pas d'expliquer, j'ai un peu mal en terre. Je n'arrive pas très bien à distinguer. Il est né juif, il reste juif, c'est incontestable.
Ah, vous avez le problème, vous avez du mamzer?
Oui, alors j'ai pas compris justement à cause de cette paracha, justement, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il est né juif, il est incontestable qu'il est juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Juif ne veut pas dire qu'on fait partie de ce qu'on appelle Kaal. Oui. Kaal, c'est une notion matrimoniale. Avec qui on peut se marier, avec qui on peut ne pas se marier. Oui. C'est ce qui a à voir avec l'avenir du peuple juif. Maintenant, on peut être quelqu'un juif, mais qui n'a pas d'avenir dans le peuple juif. Il ne fait pas partie du Kaal, mais il fait partie du Kaal Israël. Ça veut dire qu'il n'a aucune mitzvah en moins, et il n'a aucune restriction si ce n'est le fait d'avoir des lois pour se marier différentes des autres juifs. C'est tout.
Voilà.
Donc le mamzer, il n'a pas du tout... Ouais. C'est pas grave. Non.
Ah, c'est vrai. Vous avez parlé des limites de la tchouva par la Ira. Et pourtant, la Ira, en tant que Mila, c'est une Mila qui est...
Très bonne.
Enfin, je veux dire, on ne parle que d'elle, si je puis dire.
Ouais, alors
Je ne la cadre pas par rapport... Est-ce que c'est la même par rapport à ce que vous avez dit sur la Ira?
Absolument. La crainte, ça ne veut pas dire attention.
C'est pas forcément...
Lorsqu'on parle de crainte, quelqu'un peut se diriger par Ira. La tchouva de Ira, c'est autre chose. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut être intelligent et il faut savoir ce qu'on a devant soi, c'est ce qu'on appelle la crainte. Tout le problème, c'est que lorsqu'on parle de Tshuva Mihira, c'est que on fait appel à la Hira du Onesh, à la Hira de ce qui va m'arriver.
Et pas Hira Taromemo.
Et pas la Hira du projet divin. Vous comprenez? La Hira du projet divin, c'est encore autre chose. Ça veut dire que Pour nous, c'est comme Ava. Parce qu'on dit Meira Tshuva Meira, ça veut dire que c'est quelqu'un qui commence à se prendre au sérieux et qui a peur pour lui. Le fait d'avoir peur pour soi, c'est très bien, mais c'est incomplet dans le cycle de la Tshuva. C'est pour ça que ça se transforme en choses qui sont beaucoup moins graves, Shogeg, mais c'est pas zéro. Parce que le fait de ne pas avoir de sensibilité vis-à-vis de la chose elle-même, mais de n'avoir de sensibilité que la chose vis-à-vis de soi-même, ça fait que la chose elle-même, elle reste. Vous comprenez? Donc ça devient Shogeg.
Si la Yéra en tant que Mila, c'est comme la Hava, alors qu'est-ce que c'est que la Hava?
Non, ça n'a aucun rapport. On parle de la Tshuva. Celui qui fait Tshuva parce qu'il a peur, ou il y a quelqu'un qui fait Tshuva mais Hava. Tshuva, ça veut dire, il ne se regarde pas lui au milieu de son enfer. Ce n'est pas son problème. C'est pas la raison pour laquelle il fait Tshuva. Donc, il fait Tshuva pour rétablir les choses. Donc c'est possible que on ne puisse pas lui dire, si tu n'étais pas en cause, tu aurais fait Tshuva? Oui. Donc on ne peut plus parler de lui. On ne peut pas lui parler de Shogeg ou de trucs, il n'y a pas rien.
Mais la Yéra en tant que Mida, c'est quoi? C'est donc la peur du projet divin,
c'est oui, c'est être intelligent, il y a plein de choses. Le problème, c'est dans la Tshuva, est-ce qu'on va jusqu'au bout? C'est pas que c'est rien. Allez-y, allez-y, allez-y.
Juste par rapport au Mamzer, je lisais dans les commentaires de la parasha de la semaine sur le plan du Shvart, qu'il disait qu'en fait, on ne pouvait pas nous juger quand on est Mamzer ou pas Mamzer, parce qu'il faudrait un Kaal tout à fait pur pour pouvoir juger que les gens sont Mamzer ou pas Mamzer. Assez...
Ah bon? Ça veut dire qu'à partir de quand?
Dans le cas d'Israël, il y a tellement
de gens,
déjà on sépare.
Ah, d'accord.
Aujourd'hui, on ne peut pas juger comme ça d'exclure quelqu'un de la communauté.
D'abord, on n'a jamais exclu qui que ce soit de la communauté. Le problème, c'est qu'il y a des lois dans le mariage qui ont trait aujourd'hui aussi. Ah, même si on ne peut pas lui dire que tu vas te marier aussi parce que nous, on ne sait pas qui on est. Nous, on ne sait pas qui on est des rescapés du dîme, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que nous aussi, on est des mamzerim. Mais il n'y a personne qui les a pointés du doigt. Lui, si c'est connu qu'il est un mamzerim, il ne peut pas se marier.
Si.
C'est évident, c'est pire que ça encore. C'est que moi, je dois pouvoir expliquer au mamzer que son problème, puisqu'il n'en est pas l'origine, lui, il n'en est pas la victime non plus. Mais de nouveau, c'est une question d'émouna. Comprenez? Parce qu'il va dire, mais je ne peux pas marier tel et tel. Mais c'est ton bonheur, Boba. Je ne peux pas lui dire ça. Vous comprenez? Alors qu'on sait très bien qu'il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et que si le monde est vieux, c'est facile à arranger ça. Vous comprenez? C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que ce que nous, on pense être le bonheur ou le malheur, ça a